La guérison des maladies, troisième fichier. Chapitre 6. Le temps se maintenait au beau, quoique souvent un peu orageux le soir. Alors, on voyait un grand lion à crinière rousse se lever tout debout de derrière le mont, puis se laisser tomber sur ses pattes de devant. Grain passait dans la rue, il disait « Je ne suis rien ». C'était l'heure des gens assis devant chez eux sur des bancs, sur des tabourets, sur des chaises, le boulanger tout blanc à côté de la boulangère, le boucher à côté de la bouchère, Duport à côté de Madame Duport. « Je ne suis rien. »« Pourtant, recommençait-il, je suis plus riche que les plus riches, je suis meilleur que les meilleurs. » Peu de jours avant, il s'était mis ainsi à se promener dans les rues, et il arrêtait les gens pour leur tenir des discours. On ne s'en étonnait pas trop. Il allait dans l'inattention générale, sous un ciel où les cheminées fumaient des fumées tout de suite rabattues. C'est cette pesanteur d'air, et il fait étroit, renfermé. Lui n'en allait pas moins, il n'en poussait pas moins devant lui ses paroles. Ses paroles allaient devant lui. Et il s'est trouvé que les conversations qui se tenaient devant chez Duport ce soir-là se turent quand on le vit s'approcher. C'est que Madame Duport était une femme pratique. Elle ne voulut pas laisser l'occasion. « Grain, dites donc !» Et comme il s'était arrêté, « Est-il vrai que vous êtes si riche que ça ?» Il mit la main sur son cœur. « Riche entre les riches !»« En ce cas, vous feriez bien de me payer ce que vous me devez !» Tous ceux qui se tenaient là s'étaient tournés vers Grain, étant bien 7 ou 8, les uns assis sur le banc de bois vert, placés tout contre la boutique, les autres debout à côté. On se mit à rire. Qu'allait-il répondre? Mais il ne parut nullement embarrassé. « Venez seulement avec moi, dit-il, et ce qui vous est dû vous sera payé. » Là-dessus, il attendit un instant, puis ayant vu que Madame Duport restait assise, il continua son chemin. Tous furent d'avis qu'il n'avait plus sa tête. Même Madame Duport, à ce propos, fit la leçon à son mari. « Tu vois ce que c'est de faire crédit au premier venu. Mon pauvre ami, tu n'auras jamais la bosse du commerce. » Il se passa la main dans le haut de la nuque, puis, modeste, « Je crois bien que non. » Quant à Grain, il allait toujours, ce qui le mena sur la place du port. Justement, une barque de pierre venait d'arriver de Savoie, et, étant payée tant par traversée, les hommes de la barque se dépêchaient de la décharger. Ils n'avaient sur le corps qu'un maillot blanc sans manches. Plusieurs même étaient nus jusqu'à la ceinture. Et ils allaient l'un derrière l'autre sur la planche, poussant leurs brouettes qui grinçaient pendant que la planche pliait. Au-dessus d'eux étaient les deux gros mâts avec leurs vergues encore plus grosses qu'eux à cause des voiles enroulées. Et les mâts, montant droit en l'air, étaient noirs. Et les vergues penchant de côté étaient noires sur le ciel rose, pendant que la planche pliait et que les brouettes grinçaient. Puis on n'a plus su si c'était les brouettes ou dans le ciel toutes ces hirondelles, tissant là, retissant, faisant, défaisant, refaisant comme les mailles d'un immense filet. La nourriture est du dedans. Un bateau à vapeur venait de passer au large. Trois triples rangées de vagues arrivèrent, et l'énorme coque, bien qu'amarrée solidement, fut soulevée. Un grincement se fit entendre, un craquement. Et, drôlement, les hommes furent balancés sur leurs planches, à croire qu'ils allaient être précipités dans l'eau. Mais, d'un coup de rein, ils avaient déjà repris leur équilibre. « Cyprien !» cria quelqu'un. « Était 28 jours !» Cyprien, qui venait de vider sa brouette, se tourna vers celui qui l'interpellait ainsi. Il reconnut un sien cousin qui travaillait chez un rétameur de la ville. « Réformé, » dit-il simplement. Et il prit une chique. Et Grain, de nouveau, qui parlait. « Je n'ai plus ces grandes soifs. »« Tu n'as plus soif. »« C'était Bolomé, le loueur de bateaux, qui venait justement d'arriver sans que Grain l'eût aperçu. « Tu n'as plus soif, tant mieux pour toi. Mais le vin est meilleur quand on n'a pas soif. Le bon vin, ça se savoure. Allons boire un verre. » Grain se laissa emmener. Il disait « Elle ne me l'a pas défendu. » Les bruits entraient par les croisées ouvertes et la porte restait ouverte. C'étaient les petits cris mélangés des hirondelles et des mouettes, c'était le grand fracas des pierres, c'était des bouts de conversation, des appels, des quintes de toux. Un peu plus tard, les Savoyards entrèrent à leur tour. Ils s'assirent autour de la table, étalant devant eux leurs bras couleur de vieux noyer, tout en bosse et en nœuds. Il y avait un petit vieux à moustache blanche, un gros garçon lui faisait vis-à-vis. C'était celui des 28 jours. Chapitre 7. Et la suite a été que la propriétaire des Grains vous faisait entrer chez elle pour vous dire « C'est extraordinaire le bien qu'elle m'a fait !» Elle habitait le premier étage de la maison et n'entretenait pas de très bons rapports avec ses locataires parce qu'ils lui devaient plusieurs termes. « Mais, recommençait-elle, je n'ai pas pu faire autrement que d'aller voir leur fille quand elle est tombée malade. Et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est justement, elle ne m'a rien dit. On entendit marcher à l'étage au-dessus. Allez seulement demander à la vieille de l'église, vous savez bien, celle dont le mari a été écrasé par le train. Elle, elle vient tous les jours. Elle dit, je vais au bon air. C'est sûrement elle qu'on entend marcher. » La propriétaire disait vrai. Une fois de plus, la vieille de l'église venait d'arriver, étant entrée tout doucement après avoir frappé 3 coups. S'était assise à côté du lit, avait croisé les mains dans le creux de sa jupe, se tenait très droite, très raide, regardait Marie, ne bougeait plus. Il lui pendait un long nez noir entre des pommettes pointues. Sa figure, comme une pomme gâtée, était tachée de brun, de jaune, de violet. Une terrible maigreur se montrait sous le bonnet de tulle noir tuyauté, étroitement serré aux tempes. Une même maigreur sous le corsage plat, plus bas encore sous la jupe, où les genoux venaient en avant comme 2 cailloux pointus. Et elle se tenait tellement immobile qu'on l'aurait dite peinte dans l'air, n'ayant qu'un geste toujours le même, qui était de tirer de temps en temps sa tabatière de sa poche et de s'enfoncer dans les narines une pincée de tabac. Est-ce à cause de ses malheurs? Mais elle avait été une des premières à venir. Jamais pourtant elle n'ouvrait la bouche. Il lui fallait simplement être là. Et quand on lui demandait « Pourquoi ne dites-vous rien ?»« Il ne faut pas déranger les arrangements. » répondait-elle. Il y avait une couturière, il y avait une lingère, il y avait la fille pas mariée du tapissier. Un grand soleil rouge vitreux pend entre les toits dans une poussière brunâtre. La justice se tient sur sa fontaine, les 2 vieilles matelassières font leur matelas. La place où elle travaillait est toute petite, et quand 2 ou 3 matelas y sont étalés sur leur tréteau, à peine si on peut tourner autour. Dans une boutique en sous-sol, qui fait penser à une cave, on vend le sel. Il faut apporter son sac de papier, sans quoi la marchande se fâche. Un cadran solaire à chiffres bruns se voit encore sur la vieille tour, mais la tringle de fer est tombée. Il y a la couturière, la modiste, les 2 vieilles matelassières sont sur la place. Tout à côté, le tonnelier fait ses tonneaux. C'est ce quartier dit d'en haut, le plus vieux, le plus sombre aussi, vu le peu de largeur des rues longues comme le bras, qui trouve pourtant moyen de se contourner en tous sens. C'est tout petit et on s'y perd. C'est compliqué, c'est de travers, on monte des escaliers, on passe sous des voûtes, et entre les toits déjetés, on voit toutes ces façades qui penchent, se soutenant de l'épaule l'une l'autre, comme pour s'empêcher de tomber. Ils vivaient la plupart très difficilement. Là où c'est vieux, c'est presque toujours pauvre. Voilà 40 ans à peu près que les maladies sont sur le vignoble, et nous aussi nous sommes gravement atteints. C'est toutes ces privations qu'on a eues, et seul ce qu'il y a de mauvais en nous trouve à s'utiliser pour finir, pas ce qui est bon. Jalousie, chicane, rancune, plus on se débat, plus on s'y empêtre, comme quand le petit chat s'est pris les pattes dans un peloton de fil. On manque d'air, on manque de lumière, on manque de choses bonnes à manger. Ils étaient poursuivis en justice pour des notes pas payées. Est-ce qu'il n'est pas écrit qu'à celui qui n'a rien, même le peu qu'il a sera repris? Beaucoup alors s'étaient mis à boire. On boit pour redevenir celui qu'on était, pour devenir celui qu'on voudrait être. On tâche à se hausser à soi-même, et le plus souvent, ce n'est que pour un moment, puis on retombe. Mais on n'a qu'à recommencer. Et pendant ce temps, la contagion gagne, comme le phylloxéra, justement, et le mildiou, par un répandement rapide. Toutes sortes de maladies qui vous viennent. Ces rires faux, ces trop gros rires, ces soudaines colères, ces grands silences aussi, d'où rien ne vous fait plus sortir. Cet air fuyant, ou bien de braver tout le monde, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et alors, chaque soir, et quelquefois tard dans la nuit, des querelles, des coups, des pleurs d'enfants, les lamentations des femmes. Quand les fenêtres sont ouvertes, quand c'est l'été, quand il fait chaud, et tout s'entend dans ces petites rues. Une centaine comme ça. Ils ne se plaignaient même plus. Un découragement s'est emparé de vous qui fait que les mots vous coûteraient trop cher, et on aime encore mieux se taire. C'est ces gros soupirs seulement. C'est ces accoudements et ces rencognements dans la cuisine sombre. Et les femmes deviennent d'humeur plus difficile, et les enfants sont plus souvent grondés ou battus, voilà tout. Mais quelquefois aussi, le souvenir des temps meilleurs vous revenait. Cette pauvre Adèle, alors, sanglote. Et cela même qui semble avoir accepté, un mouvement encore par moments les trahit, comme chez ce Julien Barbaz, parce qu'il a déjà 7 enfants, et un 8e va venir. Alors il secoue la tête. Si seulement on pouvait s'arrêter. Il y avait ce soir-là beaucoup de femmes autour de la fontaine, l'eau n'étant pas encore mise dans la plupart des maisons. Il faut un gros effort avec ces seaux de 15 ou 20 litres, c'est-à-dire 15 ou 20 kilos, et un à chaque main, et monter avec 2 ou 3 étages. Souvent elles étaient forcées de s'asseoir, n'en pouvant plus, dans leur cuisine, puis elles repartaient pour un nouveau voyage. Heureusement qu'il y avait au bout l'occasion de causer un moment. Elles en profitaient. Elles furent 3, puis 7, puis plus nombreuses encore. Tandis que la rue allait et venait, elles se racontaient à tour de rôle leurs histoires. Une grande maigre écoutait, la main à plat sous le menton. Les rondes et les petites tenaient plutôt les leurs croisées sur leur tablier. « Est-ce vrai ?» des cris de surprise. « Pas possible !»« C'est la vérité, je vous dis !» Des hochements de tête, et il y en a une qui se penche, se mettant à dire des choses dans l'oreille de sa voisine. Toujours ces mêmes malheurs, ces mêmes ennuis, mais comme c'est à autrui qu'ils sont arrivés, on en ressent du plaisir. C'est même le seul plaisir qui nous reste. Contentement de voir que personne n'est à l'abri et que, quand il grêle, c'est pour tout le monde. Tant mieux, après tout, si Jenny Chauvy, cette faiseuse d'embarras, a été remise à sa place par son homme. On prétend qu'elle est à plat de lit. Eh bien, elle s'en souviendra mieux. Mais un mouvement s'était fait, qui gagna peu à peu la rue dans toute sa longueur, venant de devant la maison de Grain. Le maillet du tonnelier, prêt à s'abattre sur la douve, reste suspendu en l'air. L'épicière pesant son sucre garde dans la main le morceau qu'elle allait laisser tomber dans le sac. Celle qui tirait son seau plein l'abandonne sur les traverses. Même ce tout petit nuage entre les toits s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passait? On ne sut pas bien d'abord. Puis le bruit de la chose a commencé à se répandre, en même temps que tout le monde se tournait du même côté. Deux femmes venaient, là-bas, de sortir de chez Grain. Tout de suite, elles avaient été entourées. Elles faisaient des gestes, étant seules à en faire, comme sur un théâtre. C'étaient les nommées Jeanne Cavin et Mélanie Roy. Alors une rumeur s'éleva. Elle grandit encore. Et alors aussi, c'est qu'elle est guérie. Non, justement, elle n'est pas guérie. Même, elle est plus malade que jamais, à peine si elle peut bouger. On continuait cependant. Elles disent qu'elle a changé de figure, elle n'osait plus la regarder. On vous disait bien, c'est qu'elle est guérie. Mais au même instant, une voix. C'est de la terre qu'elle est guérie. Il se trouvait que la nuit était maintenant venue tout à fait. Il y eut cette voix, elle a recommencé. Guérie de la terre et des maux de la terre, guérie des maux de l'âme et des choses d'en bas. On s'était retourné, on n'aperçut personne. On commençait à avoir peur. Mais ensuite ce fut cette ombre qui venait, et la voix l'avait précédée, et son discours allait comme toujours devant. Je ris en même temps et je pleure sur vous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais venez seulement, et vous serez guéris. » Tout en parlant ainsi, Grain était arrivé devant chez lui. Il était entré dans l'allée. Il allait, tâtant l'ombre comme quelque chose d'épais. Il finit par rencontrer le mur au bout de ses doigts. Et du pied aussi, prudemment, il tâtait les dalles, à cause des trous qu'il y avait dedans. L'une d'elles bascula. C'était de grandes, d'anciennes dalles de molasse, profondément creusées et entamées par les semelles, et pour la plupart descellées. Mais il les connaissait toutes. On peut dire personnellement. Celle qui avait basculé lui valut de savoir qu'il arrivait au bas des marches. Il s'arrêta, il écoutait. On n'entendit rien encore. Et ce fut seulement quand il se trouva derrière la porte du logement qu'un bruit se fit entendre, qui était qu'on marchait tout doucement dans la cuisine, et tout doucement ensuite on versa de l'eau dans un baquet. Il se mit à sourire, lui aussi fit doucement. Il vit que sa femme était debout devant l'évier. Elle se retourna, elle mit un doigt sur sa bouche. Elle haussa les épaules, il n'eut pas l'air de s'en apercevoir, et tendant le cou vers elle, à voix basse, « Est-ce qu'elle dort ?» Pour la seconde fois, Madame Grain haussa les épaules. Grain lui-même souriait toujours. Jamais on n'aurait cru qu'il pût avoir le pas si léger. Et jusqu'à ce moment, il avait gardé son chapeau sur la tête. Quand il fut arrivé devant la porte de la chambre, il l'ôta. Chapitre 8. Tout de suite, alors, ont éclaté les signes, mais ceux qui surent les voir ne furent d'abord que quelques-uns. Temps tranquille et de répit. Cette madame de l'église et quelques autres, point de bruit encore. Tout se passait dans le plus grand calme. Grain lui-même semblait calmé. Grain prêchait, Grain se promenait. Temps tranquille, temps de répit pour tout le monde. Deux ou trois semaines dans le bel été qui s'avançait. Deux ou trois semaines aérées, le soleil donnant de bonheur sur les toits. Et cette ligne, alors d'en haut les toits, cette ligne du fait des toits, tremble. Grain sortant, Grain rentrant sur la pointe des pieds, pas souvent là d'ailleurs, et qui ne parlait guère. Mais ce sourire qu'il avait, et elle, si paisible et douce dans son lit, avec, elle aussi, ce sourire. La seule chose qui marqua le changement qui s'était fait, ces premiers temps, fut les visites, dont le nombre avait été rapidement en augmentant depuis le soir de la fontaine. Quand, les femmes tirant à elles leurs seaux sur les traverses de fer qui grinçaient, Mélanie Roy et Jeanne Cavin avaient dit « Elle a changé de figure !» On avait voulu venir voir, parce que la nature de l'homme est méfiante, parce que c'est un besoin chez lui de toucher et de constater. Est-elle déjà n'avait pas voulu croire avant d'avoir mis le doigt dans les trous des mains et des pieds. Donc, il y avait eu des femmes qui heurtaient, puis « Est-ce que vous permettez ?»« Oh, un tout petit moment seulement, on ne voudrait pas vous déranger. » À cause des contrevents de bois plein dont le crochet était fixé au dernier trou, une grande obscurité régnait dans la chambre. Tout au plus y voyait-on luire les couleurs du tapis à fleurs ou la traînée d'un reflet sur le ventre d'un bol de faïence. Et depuis dehors venaient bien toujours les bruits de la vie. Une planche qu'on rabotait, des cris d'enfants, l'horloge, le sifflement des bateaux à vapeur. Mais il ne troublait plus ici le calme de l'air et des choses, ayant comme changé de nature en entrant. Et les femmes n'osaient plus. Elles se tenaient un peu en avant de la porte, les femmes, et d'abord elles n'osaient plus. C'est peu à peu seulement qu'elles se décidaient à avancer, parce qu'elles étaient appelées. Ne voyant rien encore distinctement, puis il y a eu la blancheur du lit dans le coin qui les appelait. Elles ne voulaient pas, elles n'auraient toujours pas voulu, elles y étaient forcées. Elles n'osaient pas, puis osaient. Et elles ont baissé la tête. Puis, quand même, elles l'ont levé. Alors, il y a eu devant elles ce sourire qui n'était plus de la terre. Il y a eu cette figure qui éclairait comme un autre soleil. Pourtant, c'était bien, si on veut, la même pauvre petite figure, plus maigre encore, plus pâle encore, et plus tirée. C'était bien le même grand front osseux, le même nez pincé, ses joues creuses. Tout ce qu'écrit sur nous la maladie, tous les signes de la maladie gravés chaque jour plus profond, ses pauvretés et sa laideur. Seulement ils étaient, comment dire, devant, et il y avait ce qui est derrière. Ils étaient comme le globe de la lampe, et la lampe est claire à présent. Mais comment faut-il dire, en effet, nous, on ne sait pas s'exprimer. Alors elle ne disait rien. Elle se tenait là sans rien dire, et se contentait de sentir, et employant toutes leurs forces, et se contentait d'être heureuse le plus qu'elle pouvait, le plus longtemps qu'elle pouvait, comme l'enfant qui a trouvé un pot de miel va jusqu'au fond. Vite, pendant qu'elles étaient là, se dépêchant, puis la porte de nouveau s'ouvre. « Marie, es-tu contente? Je t'amène encore des visites. » Les autres avaient pu changer, elle pas. Elle restait une bonne femme qui a sa fille malade et qui, parce qu'elle l'aime bien, se réjouit de l'avoir entourée. « Approchez-vous !» reprenait Madame Grain. « Mais non, vous ne la fatiguez pas. Il faut seulement ne pas trop lui parler. » Et elle vous avançait une chaise. « Mais nous, pourquoi est-ce qu'on est si bien? Pourquoi le cœur si en repos? Pourquoi est-ce qu'on respire mieux? Comme si des fenêtres s'étaient ouvertes dans nos vies. » Il faut marquer ce temps, et aussi, peu après, la visite des demoiselles Chapuis. Mais qu'on mette d'abord ce qu'il y a autour. Qu'on entende d'abord le basculement, chez la marchande de sel, de la balance ancien système aux deux grands plateaux de fer étamés pendant à des chaînes rouillées. Qu'il y ait l'espèce de cave, que c'est, et elle là-dedans, la marchande de sel, qui haussait les épaules, étant une personne de caractère difficile. Elle haussait les épaules, l'air de vous dire « Laissez-moi tranquille avec vos bêtises. » C'était le soir, et on met le soir. Et on met aussi cette fumée fine, ce bleu d'eau de savon qui est répandu au-dessus des toits à l'heure où on fait le café. On mettra ce qu'il faut qu'on mette. Il y aura le bruit des voix, la petite agitation d'avant la nuit. Il y a aussi ce quelque chose de nouveau qu'on sentait déjà dans tout l'air, ou bien si c'est seulement qu'il fait si rose. Jamais, semble-t-il, il n'a fait si rose. Le coq, là-haut, qui voudrait s'envoler, mais il ne peut pas, a tourné le bec du côté qu'il faut. Ça souffle de bise. Celle qui tient ce gros pot de lait est une toute petite fille qui s'avance avec précaution s'arrêtant tout à coup quand il va déborder. Elles, on les reconnaît tout de suite. Elles allaient l'une à côté de l'autre. Elles étaient les deux, comme toujours. L'une était plus grande et plus mince, l'autre plus petite, plus forte. C'est surtout par leur allure qu'elles se ressemblaient. Le même petit pas pressé, le corps de travers, toutes deux la tête en avant, et toutes deux la même pèlerine noire, la même pauvre petite jupe noire, le même chapeau rond en paille noire, garni de crêpes, avec un chou sur le devant. La plus petite avait un panier au bras, c'était Mademoiselle Rose. Tout de suite on les reconnut quand elles entrèrent dans la rue, mais on ne fut pas sans s'en étonner. Il faut savoir nos habitudes. Les demoiselles Chapuis n'étaient pas du quartier. Elles ont beau être pauvres, elles n'appartenaient pas au même monde que nous. Nous, on est petits vignerons, ouvriers de vignes, boutiquiers. Elles habitaient une de ces maisons du bord du lac où logent nos messieurs et les familles considérées. Et donc la surprise fut grande. Qu'est-ce qui les amenait? On ne le sut pas tout de suite. Les demoiselles Chapuis continuant à s'avancer. Et c'est seulement quand on les vit s'arrêter que la réponse vint. Et l'explication fut simple, mais l'étonnement redoubla. Elles regardaient vers cette fenêtre du second étage. Elles devaient savoir que c'était là. Une lampe venait de s'allumer derrière les petits carreaux sans rideaux. On distinguait une ombre qui allait et venait dans la pièce. Et elles se tinrent immobiles un instant encore, comme si elles hésitaient à entrer, tandis que tous les yeux étaient tournés vers elles. Puis Mademoiselle Rose prit sa sœur par le bras. Parce que Madame Grain, ce soir-là, était d'assez mauvaise humeur, elle ne se pressa pas d'aller ouvrir. Il fallut qu'on heurtât de nouveau, ce qu'on ne fit pas tout de suite. Elle s'essuya les mains à son tablier de grosses serpillières pas très propres. Elle n'a rien distingué d'abord sur le palier, à cause que la lampe de la cuisine n'éclairait pas suffisamment. Peu à peu, pourtant, les figures firent dans l'ombre deux taches pâles, et Madame Grain, se penchant, « Eh, mon Dieu, mesdemoiselles, je vous demande pardon, c'est qu'on n'y voit pas trop clair, mais je vais vite aller chercher la lampe. » Sa mauvaise humeur était passée. Même, pour les raisons qu'on vient de voir, un grand empressement se faisait sentir dans ses moindres gestes. Elle montra son tablier. « Vous m'excuserez, mesdemoiselles, j'étais en train de relaver, alors on n'est pas très convenable. » Est-ce parce qu'elles étaient montées trop vite? Mais elle n'avait encore rien pu répondre, et Mademoiselle Rose semblait tout essoufflée quand elle commença. « Oh, madame, on ne voudrait pas vous déranger. On avait seulement pensé... » Et Mademoiselle Rose se tournait vers sa sœur, comme pour lui demander si elle devait aller plus loin. « On avait seulement pensé qu'une petite gâterie lui ferait plaisir. Et on est venu, et si on pouvait... » « Bien sûr que vous pouvez. Entrez seulement. Entrez, je vous dis. » L'air doux et frais du soir pénétrait dans la pièce avec la bonne odeur des jardins qu'on vient d'arroser. On entendit la voix de Madame Grain. « Marie, tu vois comme tu es gâtée. » Puis, plus bas, « Je crois qu'elle dort. » Puis, « Non, elle ne dort pas. Venez seulement, mesdemoiselles. C'est par ici. » Toutefois, les demoiselles Chapuis ne s'avancèrent pas tout de suite, et quand elles le firent, ce fut si maladroitement qu'elles se heurtèrent l'une à l'autre. À mesure qu'elles approchaient du lit, elles baissaient la tête davantage. De tout le temps qu'elles furent là, elles ne la levèrent point. Sûrement que Madame Grain ne devait plus savoir que penser, car Madame Grain s'était tue. Tout se taisait, tout était immobile. Puis voilà que Mademoiselle Rose se baisse précipitamment, pose son panier sur une chaise, ôte le linge qui le recouvre. Et on la voit qui en sort toute espèce de bonnes choses, un pot de confiture, une tranche de veau froid, une miche de pain au lait. Elle prenait ces choses l'une après l'autre, l'étendant devant elle au hasard, sans se redresser. Et elles furent posées par les soins de Madame Grain sur la table. « Comment vous remercier, mesdemoiselles? Toutes ces gâteries. Justement, le médecin avait recommandé une nourriture fortifiante. Mais il semblait que tout ce qu'elle pourrait dire serait de la peine perdue. On ne l'écoutait toujours pas. Mademoiselle Rose s'était reculée. Le panier vide était de nouveau couvert de son linge. Les deux sœurs se tenaient l'une à côté de l'autre, comme qui serait trop timide, comme qui aurait honte de soi. Comment donc se fit-il que la chose pût se passer, qui se passa comme elles allaient sortir? Est-ce qu'elles se retournèrent, ou bien si elles furent rappelées? Mais voilà, tout à coup, qu'elles revinrent sur leurs pas. Et une main leur fut tendue, et la question fut alors de savoir si elles allaient la prendre, elles qui s'en jugeaient si peu dignes, mais une force les poussait. Seulement tenir un instant cette main, comme elles ont fait. Ensuite, elles se sauvèrent. Madame Grain dut penser qu'elles avaient perdu la tête, et il est vrai de dire qu'elles passaient pour un peu bizarres. Mais le beau sourire sur le lit avait grandi encore, comme quand une fleur s'épanouit. D'ailleurs, la journée qui semblait finie n'était pas finie. Il faut aller encore un bout dedans. Il faut pousser jusque vers les 10 heures. Madame Grain donnait un dernier coup de balai à la cuisine. Elle avait bien gagné son lit ce jour-là, comme elle pensait, se dépêchant. Elle avait mal au dos, mal aux jambes, mal à la tête. Par bonheur, elle avait fini. Et en effet, elle allait tourner la clé dans la serrure quand ce nouvel événement survint. C'est qu'il n'y avait plus d'heure pour eux. Grain leur avait tenu ses discours, ce qui avait pris pas mal de temps. Ensuite, il leur avait dit « Du reste, vous n'avez qu'à venir avec moi, laissez-moi faire, et vous monterez d'en bas vers en haut. » Ils furent 5 ou 6 à venir ce soir-là, parce qu'il n'y avait plus d'heure pour eux. Et il n'y a pas que le vin qui saoule. Ils s'étaient levés, ils étaient venus. Grain allait devant, eux derrière. Descostère fumait un cigare, Grain lui avait dit « Pas de ça !» Descostère avait éteint son cigare. Et Bolomé s'était mis à rire, mais Grain de nouveau « Ne rit pas !» Le drôle était qu'on lui obéissait, et on le suivait en ceci aussi, qu'on faisait tout ce qu'il vous disait de faire. Descostère avait donc jeté son cigare, Bolomé s'était tu. Il n'y avait plus eu alors dans l'escalier que la peine qu'ils avaient, laquelle, à vrai dire, était suffisante. Ils mettaient le pied trop haut ou trop bas, ils soufflaient rauque, ils se cognaient au mur, ils se cognaient les uns aux autres, mais parce que Grain leur avait dit de venir, ils venaient. Voilà qu'à ce moment, ils arrivaient au premier palier. Ils entendirent Grain leur dire tout bas « Doucement !» Grain les avait attendus. Grain était à côté d'eux. Grain recommença. « Tout doucement, n'est-ce pas ?» Puis il repartit, et eux repartirent. Alors il y eut ce nouvel étage. Ils furent plantés là, tous, tellement ce fut brusque et net. La porte de l'appartement s'était ouverte. Madame Grain parut, elle fit un pas en avant. Elle tendit le bras. Au bout de son bras était une lampe. Ils en reçurent la lumière comme un coup de poing en pleine figure. Tout ce qu'ils purent faire fut de se raccrocher à la marche où ils se tenaient, chacun la sienne. Puis, l'éblouissement passé, la première surprise passée, ils virent qu'elle était debout au débouché de l'escalier. Ainsi, ils furent là, et elle, et Grain aussi, toujours en avant d'eux. Ils virent que Grain s'était arrêté comme eux. Ils attendirent. Et la chose fut d'abord que ni lui ni sa femme ne firent un mouvement. Grain, lui non plus, n'avait pas dû s'attendre à ce qui arrivait. Il ne parla pas tout de suite. Simplement, il monta une nouvelle marche. Elle commença. « Que fais-tu ? » Puis elle a dit « Et où vas-tu ? » Et cela fut dit de telle façon qu'en toute autre occasion, les amis de Grain auraient disparu. On n'aime pas beaucoup ces scènes de ménage. On les aime d'autant moins que la femme est moins commode. Donc, en toute autre occasion, ils n'eussent pas attendu la suite des événements. Comment donc se fit-il qu'ils restèrent? Et en toute autre occasion, Grain se serait fâché. Comment donc se fit-il qu'il ne se fâcha pas? Au contraire, jamais il n'avait été si calme. « Femme, laisse-nous passer. » Elle demanda, « Pourquoi faire ?» Mais lui, simplement, « Femme, laisse-nous passer, moi et ceux que j'ai amenés, parce qu'on n'est pas égoïste. Va devant, femme, et lève ta lampe. » Il monta alors encore une marche, et les autres montèrent une marche. Elle dit, « Tu ne passeras pas. » Elle reprenait, « Tu oserais, à ces heures, dans l'état où tu es et où ils sont, et dans l'état où est ta fille, ta propre fille. » Il a dit, « C'est justement parce qu'elle est ma fille. » Et Madame Grain, elle dort. Elle haussait de plus en plus la voix, mais lui, du même ton tranquille, « Elle ne dort pas, femme, elle nous attend. » Puis, se tournant vers les autres, « Venez !» Il monta, eux montèrent. Madame Grain ne fit pas le moindre geste. Est-ce qu'elle allait lui obéir, elle aussi? Il l'avait prise par le bras, il l'écartait. Elle se laissait faire. Il se mit devant elle se laissait faire. Et, la sortie de l'escalier se trouvant ainsi dégagée, « Passez toujours, vous autres !» Ils firent comme il leur était dit. La lampe continuait d'éclairer. Ils passèrent devant Madame Grain. Ils traversèrent le palier. Et ce fut seulement quand ils se trouvèrent dans la cuisine qu'ils s'arrêtèrent, ne sachant plus de quel côté se diriger. Rien, il n'y eut rien, pas un bruit. Ils regardaient tous du côté de Grain. Ils le virent lever le doigt, puis il s'avança vers eux sur la pointe de ses semelles. Il se détacha de sa femme comme si elle eût été le mur. Il les avait déjà rejoints. Il fit encore un pas ou deux, il leur montra une porte, puis, levant de nouveau le doigt, il le tint devant lui tout en les regardant. Mais alors, il y eut ce cri. À ce même moment, Madame Grain s'était élancée. Les hommes n'eurent pas le temps de lui faire place, ils furent bousculés, Grain d'eux-mêmes. « Tu entends? Je te défends !» Cette voix rauque. Et elle s'était mise entre la porte et lui. Il voulut s'avancer quand même, mais le coup vint. Il reçut le coup sans se détourner, qui fit un bruit contre sa joue. Il ne recula pourtant pas, il secoua simplement la tête. « Ne faites pas attention, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Puis encore une fois, toujours son même calme. « Femme, va-t'en et laisse-nous passer. » Mais la main se levait pour la seconde fois, et de nouveau allait s'abattre. Et ainsi, on ne sait pas ce qui serait arrivé si, dans ce même instant, une petite voix ne s'était fait entendre. « Mère, laisse-les entrer !» Madame Grain eut un brusque mouvement dans les épaules, comme si quelque chose en elle cassait. Grain avait ôté son chapeau, tous ôtèrent leur chapeau. Chapitre 9. La première guérie fut la petite Lucie Duc qui toussait depuis si longtemps. La chose éclata le soir même du jour où sa mère l'avait amenée, et quand le père rentra, « Elle n'a pas toussé une seule fois aujourd'hui, » lui dit sa femme. « Regarde ses joues, sont-elles roses? Touche-moi ses mains, est-ce frais ?» Il n'y voulut pas croire, ayant déjà consulté bien trop de médecins, pour ne pas savoir que ces maladies-là sont de celles auxquelles personne ne peut rien. Mais sa femme, alors, s'approchant de lui et lui prenant la tête dans ses mains, à cause d'un mouvement d'amour, l'amour depuis longtemps passé pour eux, qu'il croyait passé pour toujours, elle lui parlait à l'oreille. Il la regarda, elle ne répondit pas. Et ayant appelé de nouveau l'enfant, voilà qu'elle était gaie et vive, comme elle ne l'avait jamais été, tenant un gros morceau de pain où elle mordait avec appétit. Elle riait, elle vit passer un papillon, elle disait « C'est un blanc ». Elle disait « Où est-ce qu'ils ont leur nid? Sont-ils comme les oiseaux qui ont un nid? Ou bien est-ce qu'ils n'en ont point ?» Le père dit « Ils ont un trou dans la terre ». Il prit les boucles dans sa main, il les enroulait autour de son doigt, puis tirant dessus doucement, et elle, « Papa, tu me fais mal !» Mais cependant, elle riait. Il l'amenait à lui, il la forçait de s'approcher, tenant de l'autre main la main de sa femme. Il les amena ainsi toutes deux, disant « Il y a de la place !» Il les a fait asseoir l'une et l'autre sur ses genoux. « Un pour chacune !» qu'il disait. C'est ce ciel couleur de blé mûr de quand la journée a été très chaude, et une barque à deux grandes voiles pointues, dont l'une était blanche, l'autre rose, passait justement sur le lac. Ils se mirent tous trois à regarder la barque. Immobile à cause de la distance, elle semblait posée sur un toit. On aurait dit un autre papillon qui se serait trompé et aurait pris ce toit pour une fleur. Tout était étrange et nouveau, en même temps que très ordinaire. Il se mit à passer son doigt contre le maigre petit poignet à veines bleues, pas assez potelé, et trop doux. Son autre main tenait un autre poignet, qu'il sentait maigre aussi, mais tout rêche et rugueux, à cause des durs travaux du ménage. Alors il étendit les bras un peu, les rapprocha, puis il se mit à serrer, tenant contre lui ses deux vies. Il les serrait si fort contre lui qu'il se disait qu'à présent, elle ne pourrait plus jamais lui échapper. Il serrait, et puis tout à coup quand même, c'est pas vrai. Il repoussa loin de lui sa femme et sa fille. Il a vu le ciel se défaire, le liant de l'air cessa d'être. Il y eut des vides partout, la barque ayant quitté son toit apparut seulement une pauvre chose de bois et de toile. Même on se disait « Quel ennui pour ces gens, les heures et les heures qu'ils mettent à passer l'eau quand il n'y a pas de vent !» Mais dans ce même temps, la petite Lucie était repartie à courir et à rire, secouant ses boucles dans l'air frais du soir et devant les roses. Alors, il a bien fallu, n'est-ce pas? Ce n'est pas celle qu'on avait crue qui fut guérie. Quand Madame Grain avait crié « Elle est guérie !» Mais d'elle venait la guérison. Comment est-ce qu'on fera pour approcher? Des Costères disaient « Ce pauvre Grain n'a pas une femme commode. Les femmes, c'est comme le vin. Ça, c'est gris quand ça n'est pas bien soigné. N'empêche qu'il ferait fortune, ce sacré Grain, s'il voulait seulement. Il ne connaît pas sa chance. » Puis, changeant brusquement de ton, « Mais respect quand même pour lui et pour elle. Ils habitent les hauteurs. » C'est à ses clients habituels, amateurs de bon vin plus que de phrases, surtout de phrases de cette espèce, qu'il s'adressait. Mais le respect qu'on sent habiter chez autrui en impose. On avait beau ne pas comprendre, on se taisait. On faisait silence un moment autour des phrases de Descostères. Et c'est à cette même heure que cet autre jetait ses béquilles, et comme on lui disait « Que faites-vous ? » « C'est, disait-elle, que je n'en ai plus besoin. » Et elle riait, étant jeune encore. Mais jamais ses jambes ne l'avaient portée, ce qui était une grande gêne pour elle, parce qu'elle allait, comme on dit, en journée, étant lingère de son métier. Ceux qui la virent sortir de chez Marie racontèrent qu'elle n'avait pas l'air très contente, ni l'air de marcher plus facilement. Les deux pigeons qui la connaissaient bien ne se donnèrent même pas la peine de s'écarter pour lui faire place, ni de hâter leurs pas de promenade. Ce drôle de petit pas d'andiné de dame qu'ils ont. Ce ne fut que plus loin, comme elle passait près de la fontaine. Peut-être que la force n'agit que peu à peu, qui est la force de l'esprit. Là, brusquement, donc, elle s'arrêta, ressentant dans le dos une douleur qui lui fit faire la grimace. On pensa qu'elle allait tomber, mais quand elle se redressa... D'abord, elle a écarté un peu le bras gauche. La béquille gauche tomba. Elle la regardait, elle la poussa du pied. Quand elle se redressa, d'abord ce fut le bras gauche, puis ce fut le bras droit qu'elle écarta. Et de nouveau regardait à terre le second des bois tombés, qui étaient des bois vernis en noir, qu'elle repoussa d'elle également. Et elle se trouva debout, sans support, privé d'eux, nu d'eux. Et cependant, continuait de rire. Et comme si ce rire, ni les béquilles à terre ne lui semblaient suffire encore, voilà qu'elle levait les bras, et les bras levés, elle s'avançait. Elle n'avançait encore que lentement et en chancelant à chaque pas, comme un petit enfant qui s'essaie à marcher. Mais elle avançait. Et les gens des maisons se mettaient aux fenêtres, et elle riait vers les gens aux fenêtres, sans rien dire, tenant toujours les bras levés. Après elle, ce fut le tour de celle qui avait une difficulté de langue. Elle n'avait pas 15 ans, et quand elle était entrée dans la chambre, sa langue s'était trouvée plus embarrassée que jamais à cause de l'émotion. Mais, sitôt qu'elle avait été hors de la chambre, elle s'était mise à parler comme tout le monde. C'était maintenant Marie qui avait de la peine à parler. On vit que c'était elle qui, maintenant, était affligée de ce bégaiement. C'était elle, à présent, qui avait les jambes paralysées. Elle prenait les maladies sur elle. Elle vous ôtait vos maladies de dessus vous et s'en chargeait. Un soir que sa mère avait voulu lui changer ses draps, Marie ne put pas l'aider comme elle faisait d'ordinaire. Et Madame Grain, « Qu'est-ce que tu as ? Voyons, tâche de te tourner un peu. » Marie rougit. C'est alors que Madame Grain, tirant à elle la couverture et tirant le drap de dessus, ses pauvres jambes lui apparurent. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as ? » Et comme Marie cherchait à répondre, on connut son autre infirmité, les mots ne sortant plus qu'un à un de sa bouche, après de grands efforts, de nombreux recommencements. « Mon Dieu !» Il y eut encore ce cri. Madame Grain n'osait plus regarder. Alors, on commençait pour elle des temps durs et des temps de plus en plus durs. Il lui semblait qu'elle avait quand même des droits. Or, personne n'en tenait compte. Elle n'était même pas chez elle. Au commencement, elle avait été flattée de voir qu'on venait. À présent, elle aurait bien voulu empêcher qu'on ne vînt. Mais elle n'y réussissait pas. On entrait sans lui demander la permission. Tout le temps du monde. On entrait, et elle avait beau s'y opposer. Une force est en nous, qui fait qu'aucune barrière ne nous résiste, et cette force nous pousse par derrière, en même temps qu'on est appelé par devant. De derrière la cloison, cet appel se faisait entendre. Alors, ceux et celles qui étaient venus se hâtaient davantage encore, ne voyant rien. Sourd et aveugle, fermé à tout, vide de tout, sauf cette fin de guérison. Pourtant, jamais Madame Grain n'aurait pu croire que celle-ci osa venir, qui vint aussi. Et il est vrai que ce fut Grain qui l'amena, comme il avait déjà amené ses amis. Mais encore fallut-il qu'elle se laissât faire. La chose se passa une semaine environ après que la paralysée eût été guérie. Lui, ce fut une idée qu'il eut, parce qu'il aimait, disait-il, ce qui est beau. Il vit que ce serait une beauté d'amener encore celle-ci. L'apercevant de loin, tout de suite il s'approcha d'elle. Elle devait avoir beaucoup marché ce jour-là. Ses souliers et sa jupe étaient blancs de poussière. Elle allait le long de l'eau, sa tête pendait inutile, et ses bras pendaient aussi, qui ne servaient plus à rien. Sa brûlure était plus rouge dans sa figure plus blanche. Elle traînait les pieds. Il vint. Elle eut une grande peur quand elle l'aperçut, et se recula brusquement. Il lui dit « Venez avec moi ». On vit qu'elle devait avoir compris où il voulait la mener, parce qu'elle secoua la tête, et l'expression de peur qu'elle avait déjà eue reparut sur ses traits, en même temps qu'elle reculait de nouveau. Mais il l'avait prise par la main. Et comme elle disait, « De quel droit ?» Lui, simplement, « Du droit que j'ai. » Elle se détourna alors, et comme Grain lui-même, une fois, « C'est que je ne le mérite pas. » Il se mit à tirer quand même. Ainsi, ils allèrent un bout dans la chaleur et le soleil, le long de l'eau, puis ils entrèrent dans l'ombre des arbres. Ils prirent à travers la place. Il y avait des sortes de chemins tracés dans l'herbe par les passants. À d'autres places, elle avait été foulée et on y voyait le rond blanc d'un manège de chevaux de bois. C'est là où le cheval, pas de bois, attelé au système, tourne en trottant du matin au soir et ses pauvres sabots, tout en s'usant, usent le gazon jusqu'à la racine. Mais plus de fête, c'est fini. Quelques débris seulement traînant encore ça et là, des morceaux de papier, des bouchons de bouteilles de limonade, et ces petites agrafes de fer blanc qui les tiennent attachées, dont les enfants font des lunettes. Il marchait toujours plus vite. Elle marchait derrière lui. Des costères se montra entre ces deux lauriers aux tonneaux peints en vert et blanc. Il hocha la tête comme quand on approuve. Il ne riait plus des costères. Et ses clients, étant sortis aussi, eux ne riaient pas davantage, laissant voir seulement beaucoup de surprises, parce qu'on connaissait la brûlée, et on savait quel était son métier. Grain dut avoir conscience de la question qu'il se posait. Arrivé à leur hauteur, et comme il allait s'engager dans la petite rue qui monte, il s'arrêta, il leur parlait. Elle s'était caché la figure dans sa main, surtout le côté de sa figure où il y avait la brûlure. Et lui, pendant ce temps, c'est la plus malade de toutes, et même de deux maladies, mais ce sera la plus facilement guérie, parce que là où est le mal, là aussi elle se repent. Descostères hocha la tête, et ses autres firent comme chez lui, assez sottement par imitation. Mais peu importe, puisque le geste, qui est la chose qui se voit, est tracé quand même dans l'air. Et ce geste, Grain le vit, alors il dit « Ça va bien ». Il reprit cette main qu'il avait lâchée un instant. C'était une grosse main molle aux ongles courts. Il tira un peu dessus, de nouveau, comme un qui mène une chèvre sur la longe. Il entra dans la rue. Descostères n'avait pas bougé, les autres non plus. Et Grain passait maintenant devant le magasin de choses en faïence, dont la porte se trouvait ouverte, et le marchand était debout devant. Le marchand ne dit rien. Lui leva le bras. « Je l'amène à la source pour qu'elle boive, parce qu'elle a soif. » Le marchand était un Allemand. Peut-être qu'il ne comprit pas. En tout cas, il n'en eut pas l'air. Il gonfla seulement un peu ses joues avec dédain. Et il y eut alors la boutique de Jotterand, où on ne savait pas ce qui se vendait, parce qu'il s'y vendait de tout et de rien, avec un étalage de boutons sur des cartes, des chaînes de montres en nickel, des légumes, du fromage, des œufs, et derrière la porte vitrée, un écriteau de carton où on lisait « Belle fascine, 30 centimes ». La boutique resta fermée. Ce fut plus loin seulement que les passants commencèrent à se montrer. Les deux vieilles refaiseuses de matelas qui travaillaient sur la place laissèrent là leur ouvrage, ayant enfoncé dans le coutil leurs longues aiguilles courbes. Elles se prenaient les mains l'une dans l'autre, les serrant contre leur poitrine. Toute la famille du boulanger sortit aussi. La mère, ses deux filles, Arthur, le fils aîné, puis finalement, de la cave où ils étaient en train de pétrir, le père et le mitron. Et celui-ci, tout nu, rien qu'un tablier autour des reins, mais tellement enfariné qu'il semblait avoir le torse moulé dans un maillot de coton blanc. Beaucoup de monde, comme on voit, et tout de suite il y eut scandale. Certains se frottaient les yeux. Pas possible, pas possible. Même ceux qui avaient jusqu'alors tenu le parti de Grain ne le défendaient plus. Pas encore qu'il eût amené ses amis, bien qu'ils ne valussent pas cher. Mais une femme de cette espèce, il n'y a qu'à la regarder. Ses cheveux, cette blouse, la peau qui se voit à travers. Et puis elle est toute bouffie et blanche, comme une qui ne sent pas souvent le grand air. Une forte fille quand même, et qui aurait pu travailler. Alors un grand mépris et une sorte de jalousie en même temps, jusqu'à la paralysée, qui ne l'était plus, laquelle, se trouvant là, s'était avancée, cherchant comme les autres à empêcher la brûlée de passer. Grain toutefois venait toujours. À un certain moment, il leva la tête. il ne ralentit même pas le pas. Et elle, alors encore une fois, eut un mouvement de recul. Mais il ne fit que serrer un peu plus fort son poignet, disant « Avez-vous peur ?»« Ah non, ce n'est pas ça. »« Alors venez, parce qu'à moi non plus ils ne me font pas peur. Et il ne faut pas leur en vouloir, vu qu'ils n'ont pas compris encore. » Il allait toujours. Il se mit à dire tout haut « Vous voyez, elle n'a pas peur. Ce n'est pas de vous qu'elle a peur, c'est d'elle. » Il leva de nouveau la main. « Et c'est pour la délivrer d'elle que je l'amène. » Il arrivait à cet instant au groupe qui barrait la rue. Les gens ne s'écartèrent pas. Même le gros boulanger fit un pas en avant. « Grain, se mit-il à dire, tu vas trop loin. Tu sais pourtant qu'on est bien disposé envers toi. Alors, si on te parle ainsi, ce n'est pas pour le plaisir de te contrarier. Tu comprends bien, c'est qu'on est des honnêtes gens. » « Restons entre honnêtes gens, restons en famille. Tu ne penses pas à ta femme. Tu es marié, Grain, voyons. » Grain n'en avançait pas moins. Il se trouva pris dans la foule. On pensa un moment qu'il ne passerait pas, mais une force était en lui. Il sembla grandir tout à coup. Il leva de nouveau le bras. Il se grandissait de ce bras levé, et ce bras qu'il levait s'ajoutait à sa taille. Et, d'une voix qui étonnait par sa tranquillité et par son assurance, « Tu as raison, Raymondin, et vous tous avez raison. Seulement, vous n'êtes pas ce que je suis. Je ne suis plus ce que vous êtes. Il y a que vous suivez un chemin, moi un autre. On ne peut plus se rencontrer. Et vous m'arrêteriez, voyez-vous, que vous n'arrêteriez pas la vérité, parce que ni les murs, ni les portes ne l'arrêtent. Je vais, mais la vérité va devant. » Alors il a montré du doigt quelque chose en avant de lui. Et est-ce parce qu'il parlait bien? Mais Raymondin et tous les autres ont regardé dans cette direction. Et il y eut là-bas cette chose qui allait, et elle allait devant, et Grain allait derrière. Personne ne songea plus à empêcher Grain de passer. Il n'eut qu'à poursuivre son chemin. Il fit la chose tout naturellement, et il ne se hâtait même pas. Un vide se fit dans les pensées, un vide pareillement se fit devant lui. Il y entra, le traversa. Tous le suivaient des yeux sans plus rien dire. Et c'est ainsi que la seule difficulté qu'il rencontra encore lui vint d'elle, parce que, quand ils eurent passé, elle se mit à lui résister de nouveau. Aussi longtemps qu'ils avaient été pris dans le rassemblement, elle l'avait docilement suivi. Mais à présent, elle recommençait. « Laissez-moi !» Elle a ajouté « Est-ce qu'elle sait ?» Il secoua la tête. « Vous lui direz tout. » On entendit alors un soupir. Puis, comme quand on tire sur une plante et elle vient avec la motte et les racines, ainsi, tirant d'elle cette plainte, la raison en vint pour finir. « Jamais je ne pourrai, parce qu'elle me méprisera. » Elle dit encore, « Et j'aime mieux croire qu'elle pourrait m'aimer. » Il ne se tourna même pas vers elle. « Venez seulement, et puis vous verrez. » Alors elle se laissa faire. Il n'y eut plus que son apparence à aller. Elle avait vu le ciel noircir. Les maisons des deux côtés de la rue s'étaient rapprochées jusqu'à se souder les unes aux autres, en sorte qu'elle allait dans une matière dense et comme dans une épaisseur. Elle n'entendit pas le cri qu'il y eut, comme ils entraient dans la cuisine. Cri de frayeur, cri de surprise, cri comme ceux qu'on pousse dans un mauvais rêve. C'était Madame Grain. Mais, elle n'entendit rien, et lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, elle ne vit rien d'abord. Il fallut auparavant que l'espèce de brouillard qui l'entourait se dissipa. Alors, peu à peu, apparut le lit, apparurent les draps, les coussins, les dredons, et dans toute cette blancheur, l'autre blancheur se mit à luire, comme une montagne sous la neige. Pourtant, elle n'y pouvait croire encore, pensant « Est-ce vrai? Est-ce que c'est bien moi qui suis là ?» Et parce qu'il semblait que Grain lût en elle, Que si, c'est vrai. Et moi non plus, je ne l'avais pas mérité. Mais c'est pour ceux qui le méritent le moins qu'est fait le pardon. C'est pour ceux qui sont dans la plus profonde nuit que la plus brillante lumière est faite. » C'est ce qu'il a dit. Il y eut un silence. Tout à coup, on entendit « Pardon ». Et à la place où elle se tenait, n'ayant pas osé s'approcher, on vit la brûler, plier, toute. Elle était tombée à genoux. Elle leva les mains, elle s'y cacha le visage. En même temps, un petit bruit venait, comme quand, après une longue sécheresse, une fontaine se met à couler. Et de même que, quand un tuyau se vide, son eau d'abord boueuse entraîne de la vase, du gravier, des débris, de même, parmi les sanglots, les choses à présent qui venaient. « C'est que vous ne savez pas, et vous ne voudrez plus de moi quand vous saurez. » Un autre avait déjà parlé ainsi, ou à peu près. « Vous ne pourrez plus, je vous dis. J'ai laissé aller mon corps, il s'est séparé de moi. Et d'abord on me l'a pris, mais ensuite je l'ai vendu. » Un gros sanglot de nouveau, et elle pliait davantage en avant, joignant plus étroitement ses mains sur son visage, malgré quoi l'eau perçait et coulait entre ses doigts. Puis encore. « Non, vous ne savez pas. Il n'y a pas eu seulement ceux qui voulaient. Il y a eu aussi ceux qui ne voulaient pas. » Mais une voix dit « Venez !» Et comment cela se fit-il? Elle venait sur les genoux. Puis, avec un sursaut encore, une hésitation. « Mais vous ne savez pas qui c'est ?» La voix alors « C'est parce que je sais qui c'est que je vous ai dit de venir. » La brûlée recommença. « J'ai voulu qu'il fût méprisé parce que j'étais méprisée. » Mais la voix « Venez plus près !» Elle s'arrêta soudain, elle dit « Non !» Elle dit « Je ne veux pas !» Elle disait « Il y a encore autre chose, c'est que j'étais jalouse de vous !» Et sa voix devenait une voix dure et rauque. « Et je suis toujours jalouse de vous, je vous déteste même plus qu'avant, parce que c'est à cause de vous, et vous êtes bonne, et je suis mauvaise. » « Donnez-moi votre main. Mettez votre tête là. » Elle s'était mise à avancer. Elle obéissait, malgré elle, en même temps qu'elle levait la tête, regardant vers le lit avec hardiesse et méchanceté. « Et s'il est vrai que vous guérissez les maladies, il faut que vous sachiez que je les ai toutes. Le front, les yeux, la bouche, toutes, je vous dis. Et je vous déteste. » Mais alors, elle se sentit prise par deux mains. Quand même, ses mains n'avaient plus beaucoup de force. Elle se sentit prise, sa tête fut soulevée. Le premier baiser qui vint fut pour son front. Ensuite, il y en eut un pour chacun de ses yeux. Et voilà qu'à présent elle tendait tout son visage, sans qu'on pût savoir si c'était pour vous braver encore ou pour demander pardon. Mais ce dernier baiser venait déjà. Elle voulut crier, elle voulut dire « Je vous défends !» Son cri lui fut pris sur la bouche.